Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Optimise-toi, un podcast qui met en place l'optimisation de la vie en général. Et aujourd'hui, on va faire un podcast d'équipe, tout le monde ensemble, on va faire une série questions-réponses. On ne s'est pas consulté sur nos réponses avant, donc ça va être vraiment comme un débat, ça se peut qu'il y ait tout le monde qui va être d'accord, pas d'accord. Donc au final, on va avoir plein d'informations pertinentes à vous donner. Donc je vous laisse avec l'intro et ensuite ça, on part le podcast.
Hey, bienvenue dans le podcast Optimise-toi, le podcast de Néo Performance où nous vous aidons à atteindre une performance optimale dans tous les domaines de votre vie. De la composition corporelle à l'état d'esprit en passant par le bien-être, nous explorons des sujets qui vous permettront d'optimiser votre vie. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir un Zoom gratuit avec l'un de nos thérapeutes afin de voir comment nous pouvons vous aider personnellement. Préparez-vous à vivre votre meilleure vie en optimisant chaque aspect de votre existence.
Donc, première question, on se pose la question en équipe, qu'est-ce que vous pensez du « calorie in, calorie out » ?
Ben moi, je pense que c'est vrai. Ça prend un déficit calorique pour perdre du poids. Je dis ça, mais je pense pas que c'est la technique à utiliser pour perdre du poids. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est impossible de savoir combien de calories tu brûles. Impossible.
Ben non, c'est ça qu'on fait des estimations.
Mais exemple, tantôt justement, je parlais avec Just et Tam. Puis là, je disais au monde, ben je disais à ces deux filles-là, si exemple, tu as un ectomorphe et un endomorphe, OK, avec, tu sais, devant toi, là. Il y en a un, les deux vont manger exactement le même nombre de calories. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va perdre du poids puis l'autre va en gagner? Avec le même nombre calorique.
Ça dépend de la... Ben déjà, ça dépend de chaque individu, comment il va gérer chaque calorie, chaque macro.
Exact.
Puis après, ça va dépendre aussi de son morphotype. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va avoir plus d'impact par rapport à l'autre? C'est juste que, quand tu as dit tantôt, le calorie in, calorie out, oui, c'est vrai parce que je pense que dans le processus de perte de poids, tu n'as pas le choix de regarder tes calories. Après, il y a d'autres processus qui sont intéressants, donc regarder tous tes processus inflammatoires, être sûr qu'il n'y en a pas, être sûr qu'au niveau de l'assimilation et de la digestion, tout est beau. Puis il y a un truc aussi qui est hyper négligé pour la perte de poids, la reconversion corporelle ou même entrer dans le calorie, calorie out, c'est qu'il doit avoir un ratio de triglycérides, un ratio d'oméga 3, 6, 9 qui doit être supérieur. Donc c'est hyper important d'avoir un apport de lipides conséquent.
Mais c'est ça, mais le calorie in, calorie out,
il fait partie de l'équation.
Oui, c'est ça, mais c'est impossible de savoir combien, parce que, tu sais, si, exemple, il y a un client qui arrive en clinique, méga stressé, problème de digestion, trouble hormonal, ectomorphe, versus, là, tu as l'autre client qui arrive en clinique, endomorphe, zéro problème hormonal, zéro stressé, digestion, A1. Les deux vont être vraiment différents en termes de structure pour avoir les mêmes résultats, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis au monde, prouvez-moi que le calorie in, calorie out, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se calculer. Tu sais, avec le calcul qu'on voit en ligne, tu sais, grandeur, poids, âge, et après ça, facteur d'activité physique, tout ce qu'il faut que tu fasses pour perdre du poids, c'est exactement ça.
Ce que ça fait, c'est juste donner un approximatif, mais après ça, c'est ça. On doit absolument savoir comment que le système hormonal de cette personne-là fonctionne pour être capable de dire à peu près combien que cette personne devrait manger, dépendamment de sa dépense énergétique. C'est vraiment propre à chacun, mais il n'y a vraiment pas de façon précise de calculer. Même le nombre de calories qu'on consomme, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui est écrit sur la valeur, le tableau de valeur nutritive.
Exact. Ça, c'est un des points. Tu sais, first, on ne sait pas vraiment, parce que tu sais, deux tomates, c'est pas exactement pareil. On peut te dire.
La portion.
Exactement, c'est ça. Parce que tu sais, une calorie, vous savez, c'est quoi? C'est la c'est augmenter la température, mais tout le monde l'a fait différemment aussi. Fait que pour une personne, la tomate va être, là, je veux dire, des chiffres complètement fictifs, là, pour le monde dans le podcast, 20 calories de tomate, puis l'autre personne va avoir une calorie qui va être 200 calories. Puis là, c'est totalement exagéré, là. Mais tu sais, c'est là-dessus qu'il faut se baser, fait qu'il faut arrêter de se stresser dans le même fitness ball pour essayer d'arriver dans son nombre de macros puis de protéines puis de tout au complet, parce que c'est impossible de savoir.
Mm-hmm. Puis c'est quoi la solution pour le savoir?
La solution pour le savoir, c'est ce qu'on fait ici. C'est de l'optimisation des différents types de systèmes. Si, exemple, t'es méga stressé, puis que tu décides, en fait, d'essayer de perdre du sucre un petit peu, puis que tu fais une diète restrictive, bien, tout ce que ça va faire, c'est que ça va monter ton niveau de stress oxydatif. L'exemple parfait, c'est mon client de tantôt. Lui, dans le fond, là, il veut perdre du sucre un petit peu, il fait du CrossFit 5 fois par semaine, 2 heures de CrossFit toutes les fois. Il mange, combien il mange de calories? 2100 calories. Le gars mange vraiment pas assez de calories, pourtant il n'est pas capable de perdre du sucre un petit peu. Moi, tout ce que je fais, j'augmente parce que je diminue son stress oxydatif, puis là, il commence à perdre du sucre un petit peu. Mais sur le tableau, calorie in, calorie out, c'était la bonne affaire, mais il ne perd rien parce que son stress oxydatif est trop haut. C'est égal, tu as une dominance en estrogène. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu sais, les femmes, là, on le voit vraiment souvent, là, les femmes qui ont des dominances en estrogène ont de la misère à perdre du sel un petit peu. Fait à la place d'essayer de couper tes calories puis faire une course vers le bas puis essayer de manger low carbs, optimise ta gestion hormonale, optimise ta transit intestinale, puis là, ça va aller, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Fait que, parce que sinon, tu sais, si ça serait vraiment juste un calcul calorie in, calorie out, ben, crème, personne, il n'y aura plus de jobs dans l'industrie de la remise en forme ou de l'optimisation. Exact, ça serait vraiment simple. Maintenant, ChatGPT va pouvoir faire toutes les plans, mais tu sais.
C'est très cas par cas.
C'est ça, exactement. Fait que par rapport aux calories in, calories out, avez-vous d'autres. C'est quoi le verdict? Toi, Jess, c'est quoi le verdict par rapport aux calories in, calories out?
Le verdict, c'est que oui, ça peut fonctionner jusqu'à un certain point, mais qu'il faut quand même prendre en considération. Plein d'autres sphères, dont justement la digestion, le stress et etc.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que calorie in, calorie out, c'est vrai, t'as pris un déficit calorique pour perdre du sel un petit peu, mais c'est impossible de calculer. Fait qu'il faut pas mettre toutes ces œufs dans le même panier, je pense que c'est ça, là.
Ouais.
Pas mettre toutes ces œufs dans le même panier, plus optimiser toutes les autres sphères.
Ouais, c'est ça. C'est juste, déjà juste de savoir combien de calories on brûle de base avec une activité ou non, c'est déjà très, très compliqué à savoir.
Exactement.
Que définitivement.
Okay. Prochaine question, Monsieur Thibault.
Mais on a parlé un petit peu tantôt de la caféine. Qu'est-ce que vous pensez de la caféine?
Sans trop d'abus.
Ouais.
Que ça peut jouer sur nos glandes surrénales, notre sommeil, nos hormones, nos neurotransmetteurs. Donc, d'après moi, ça dépend vraiment de ta grandeur, de ta taille, tout ça. Mais mettons à peu près je dépasserais pas un 200 mg par jour, moi, perso. Mais okay. Moi, je suis 5 pieds 1, 125 livres à peu près, donc c'est du cas par cas, mais je remarque souvent que les gens abusent de la caféine, ils ne le prennent pas au bon moment de la journée, donc ça cause des débalancements ailleurs.
Exact. Mm-hmm. Ben, c'est ça qu'on en avait déjà parlé avec lui dans le passé, dans un podcast, puis on peut calculer le nombre de milligrammes de caféine par kilo poids de corps, sauf que c'est très, très subjectif. Hein, s'il y a des problématiques hormonaux, si justement on est quelqu'un stressé, dépendant de morphotype, on va être plus sensible. Comprendre aussi les années que la personne elle l'utilise. Hein. Si ça fait des années que tu utilises la caféine, tu vas avoir une sensibilité aussi qui se crée avec le temps. Faut oublier non plus que la caféine, techniquement, c'est un stress énergétique, mais on dit souvent que c'est un stimulant, mais en réalité, non, c'est un inhibiteur. Techniquement, en fait, la caféine, c'est un inhibiteur d'adénosine. Justement, c'est pour enlever le principe de fatigue, mais le problème de ça, c'est dépendant à quel moment c'est pris dans la journée, on risque d'avoir une carence en fait, qui va se créer au niveau de la fin de journée, puis avoir des problèmes de sommeil. Puis quand on parle de problème de sommeil, on peut parler aussi de problème de cortisol, problème de récupération. Donc forcément, c'est des choses qu'il faut calculer. En fait, c'est très subjectif. La caféine, moi, personnellement, j'en consomme, même la recommande. Je pense que c'est un super bel outil. Je pense qu'il faut juste l'adapter à chacun.
Ouais, c'est bon. Totalement. Moi, je pense vraiment que la caféine, c'est bon, mais le timing, il est tellement important. T'sais, si, exemple, tu te réveilles le matin puis que tu te gommes un café, bien là, ton adénosine, en fait, ne fera plus sa job au cours de la journée. Fait que là, si, exemple, tu es stressé, tu te réveilles avec ça, c'est vraiment pas super bon, tu sais. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'attendre minimum une heure. Dans le meilleur des mondes, là, c'est 2 heures. Dans le meilleur des mondes, tu sais, puis quand on dit le meilleur des mondes, là, tout est relatif. Le but, c'est de faire le mieux qu'on peut. Fait que, tu sais, c'est quand on veut avoir les vraies infos 2 heures avant, tu vas avoir une belle coupe de cortisol le reste de ta journée. Et pas oublier que la demi-vie de la caféine, c'est environ 6 à 8 heures. Fait que, si, exemple, tu consommes de la caféine à 2 heures l'après-midi, ben, ça se peut que tu aies des problèmes de sommeil. Puis même si tu dors, bien, ça se peut en fait que ta récupération soit vraiment pas bonne.
Oui. Puis t'en fais quoi du Joe qui dit « Ah, mais moi, je voudrais faire me coucher un café, là, Skype. »
Ouais, travaille tes glandes sur Elad.
C'est
ça. Si, exemple, ta café, tu sais, t'es déjà, parce qu'il y a plein qui écoutent le podcast, qui disent « Moi, là, la caféine, ça fait absolument rien, je dors quand je prends la caféine, ça va super bien. » Mais ça, c'est parce que tes glandes surrénales sont totalement à terre. Puis ça, exact, tes glandes surrénales, c'est tellement important pour l'équilibre hormonal, c'est important pour ta gestion de ton niveau de stress, c'est important pour ton énergie aussi. Fait que hyper important. Fait que caféine le plus tôt possible le matin, it's the way to go.
Ouais, est-ce que c'est le même timing, le même nombre de temps, exemple 2 heures de temps pour être décaféiné? Je sais qu'il y a une bonne caféine, mais il y en a quand même.
Il y a de la caféine, ouais. C'est la même chose pour moi.
Mais c'est la même. En fait, ce qui va se passer, c'est que même pour un décaféiné. En fait, c'est la demi-vie, c'est pas la quantité de caféine, c'est la durée d'élimination totale du milligramme de caféine. On se dit que t'en as 200 ou 400. La durée va être la même, l'élimination va être différente.
Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que si, par exemple, tu prends tout le temps du café, puis ton corps, il sait qu'à chaque fois qu'il prend du café, il y a de la caféine dedans, il va avoir des réactions. Avec l'adrénaline, il faut plus son travail, l'adrénaline va t'augmenter. Si tu prends des cafés, ça se peut que ça te fasse exactement la même chose parce que ton corps est habitué avec ses papilles. Fait que caféine, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est bon, c'est intéressant d'en consommer, mais pas en excès et surtout le timing. Très important.
Oui, moi, c'est ça. Deux conseils que je donne à mes clients, c'est de ne pas nécessairement prendre de la caféine dès le matin quand tu te réveilles. C'est comme, prends ton temps, prends de l'eau en premier, mange ton déjeuner, puis peut-être boire ton café après ton déjeuner. C'est un peu mieux pour laisser le temps à ton corps de se réveiller naturellement à la place d'être... de se réveiller avec la caféine. Puis l'autre chose, c'est si tu consommes de la caféine dans ta journée, puis justement, tu as de la misère à dormir, moi, ce que je conseille et je fais aussi, c'est de prendre des capsules de magnésium D-SNAP. Ça aide à mieux dormir, à mieux récupérer. Je le vois la différence quand je prends du magnésium puis que j'ai bu de la caféine. Ou exemple, j'ai bu de la caféine, j'ai pas pris de magnésium, je le vois la différence.
Ouais, hein? Puis c'est quoi déjà aussi pour la caféine? Il y avait... je me rappelle pas si c'est le GABA. Si tu prends... caféine, GABA ensemble, ça a moins de réaction au niveau de tes cycles hormonaux. Là. De mémoire, ouais. C'est ça. Après, je confirme, là, mais c'est...
glycine.
GABA ou acétylcarnitine. En tout cas, c'est un des deux. Okay. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit quelque chose. Hein. C'est que ça diminue l'effet au niveau de ton adénosine. Fait que ça va en fait avoir moins d'impact.
OK.
Ouais. Fait que faudrait que je confirme, là, mais c'est quelque chose que j'avais vu dans une des formations. Fait que...
Parce que moi, j'avais vu caféine et taurine.
Oui, exactement, taurine, c'est ça, exactement, caféine, taurine. Ouais, exactement.
Qui a un super bel impact, en fait, sur le système nerveux, mais aussi sur les cellules musculaires. Donc, c'est sûr que les combiner les deux ensemble, ça va avoir un moins gros impact. On peut regarder toutes les boissons énergisantes, beaucoup de stimulants, pré-workout et autres, en ont. S'ils mélangent souvent, en fait, l'acétamine et de la taurine, c'est souvent qu'il y a la mauvaise pub, là, mais c'est juste un acétamine, puis c'est même très positif hein, pour les gens qui s'entraînent, by the way, si je vous le recommande. Mélanger justement avec de la caféine, ça a baissé en fait l'effet stimulant physiologique, donc tout ce qui est pression artérielle, rythme cardiaque, etc. Ça va aider au niveau du système hormonal, mais aussi hormonal, puis aussi au niveau tout ce qui est musculaire.
Ouais, solide, parce que le monde a tendance à dire, hey, la taurine, il y a une Red Bull. Fait que je prendrai pas ça, mais en fait, c'est, ça calme la taurine, c'est bon pour la santé cardiovasculaire.
Mm-hmm.
Fait que.
Tellement.
Je suis en train de compagnie, mais on check du magnésium aussi.
Ouais, exact. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, il y a une des affaires aussi, tu sais, la demi-vie de la taurine est plus longue que la demi-vie de la caféine. Right?
Ouais.
Fait que, ben en fait, l'impact, tu sais, que ça a.
Ouais.
Fait que quand tu prends, exemple, une boisson pleine de caféine avec de la taurine, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ta caféine commence à faire moins effet, ta taurine fait encore effet. Fait que t'es un petit peu plus fatigué. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'en prends un autre. L'effet addiction aussi. Ah, ben, c'est 100%. Fait que c'est ça qui est ça.
Ok.
Next one.
On parlait en fait de tout ce qui était des diètes style carnivore et autres. Là. Vous, est-ce que c'est des choses que vous avez côtoyées?
Tam, je pense que peut-être tu l'avais fait, je pense. Hein?
Pas carnivore, mais en fait, moi, j'ai comme essayé tellement de diètes. J'ai passé de manger de la viande à être végétarienne, à être végane, à redevenir végétarienne, puis à recommencer à manger de la viande. Puis honnêtement, c'est vraiment du cas par cas parce que j'en ai des amis qui sont véganes puis ils vivent bien avec ça, puis ça fait des années qu'ils sont véganes, mais... En gros, c'est pas fait pour tout le monde. Et exemple, moi, de mon expérience, c'est que quand je mangeais vegan, j'avais beaucoup moins d'énergie, beaucoup de brain fog, la digestion n'était pas optimale, j'avais beaucoup d'inflammation. Puis maintenant que je mange la viande, tout ça, c'est parti. Je me sens optimale, plus de brain fog, l'énergie est super, j'ai plus d'inflammation, mon système digestif fonctionne adéquatement. Fait que il y a une affaire aussi à comprendre, c'est que la protéine végétale n'est pas assimilée de la même manière que la protéine animale. La protéine animale est beaucoup plus biodisponible que la protéine végétale. Puis en plus, la protéine végétale, ben, c'est pas une protéine complète. Il y a comme quelques acides aminés dedans, mais pas les 9 essentiels pour former une protéine complète. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de véganes, anciens véganes, en fait, qui retournent vers la viande parce qu'ils voient la différence, comme à quel point que ça te redonne de l'énergie puis de la vie. Tu l'assimiles à 100% ce que tu manges, tandis que végétal, ben, ton corps doit travailler plus fort pour aller l'assimiler.
Ouais. Ben là, c'est ça. Excuse-moi.
Moi, j'entends déjà du monde là, derrière l'écran là, dire « Non, mais moi, là,
ouais,
mais moi, le vegan, mais l'affaire, ce qui est important avec toutes ces diètes-là, là, c'est la zone grise. Il n'y a rien qui est vraiment, vraiment bon. Fait que tout est dans la zone grise. S'il y a du monde, exemple, que le carnivore, là, c'est game changer, ça va sauver leur vie. D'autres, que ça va les empirer, puis ça va les rendre plein d'eczéma. Puis là, même principe au niveau du vegan. Il y a du monde comme toi, Tam, que... ça magane le corps, puis d'autres personnes, que ça change des vies. Fait que si, dans ta tête, t'as une seule diète, c'est la diète miracle, là, moi, je pense que tu t'informes pas assez.
Ouais,
moi, de mémoire, c'est parce que tout se joue en zone grise. Fait que, c'est comme, il y avait une seule diète au monde qui réglait tous les problèmes, comme exemple carnivore, là, Ah, exact, carnivore. Puis lui, là, c'est... Ça règle tout, là. Tu sais, il faut que tu manges des testicules, il faut que tu manges des foies. Mais à un moment donné, c'est ta zone grise est où, là? Tu sais, comme, c'est ça qui est super important. Fait que, dans le noir, c'est jamais bon. Fait que, moi, je pense que tout est bon, mais.
Avec modération.
Avec modération, puis tout est. Faut que ça soit par rapport à ton objectif à toi. Fait que, si, exemple, c'est le pro du vegan, puis tu dis, non, moi, ce podcast-là, je l'aime pas parce que ça dit que le vegan, c'est pas bon pour tout le monde, c'est la merde. Tu sais, fait que. Ouais.
Mais faut juste être réel, par exemple. C'est ça, c'est quelque chose que moi, je... Même si je suis d'accord avec ça, tu sais, il faut quand même être réel puis de penser des secondes aux vraies affaires. En fait, la raison, c'est qu'il faut poser au client pourquoi tu fais telle ou telle diète.
Ouais, le pourquoi est important.
Si, mettons, il y a des valeurs qui sont présentes ou des croyances qui sont très importantes, si la personne, en fait, typiquement me dit, mais c'est parce que honnêtement, j'aime les animaux, ça me fait vraiment de la peine, écoute, c'est tout à ton honneur. Au final, si la personne dit, bah, c'est pour avoir une meilleure santé. Ben, il y a peut-être de chances de prouver à point B que c'est vraiment de la bullshit, tu comprends?
Ouais.
Tu sais, moi, c'est vraiment de même que je le vois, cette diète-là, tu sais, j'ai autre que... Mais en fait, les diètes en général...
C'est appris de one size fits all.
C'est ça. Mm-hmm.
C'est du cas par cas.
Il faut juste expliquer à la personne que, ben, après, c'est sûr que ça peut créer certaines problématiques, certaines carences. Après, comme je vous dis, il y a n'importe quel planificateur, n'importe quel... Je ne sais quelle personne qui va faire une programmation, on va poser la... En tout cas, là, j'espère qu'elle posera la question, c'est dans quel but et pourquoi, et est-ce que ça te tient tant à cœur que ça? Combien de personnes on a côtoyé, on a vu dans notre carrière ou même par expérience, qui font des diètes keto, mais ça ne sait pas pourquoi?
Ouais, exact. Ben, c'est populaire.
Ben, c'est ouais. Ça. Y a, j'ai vu sur Instagram, c'est cool.
T'sais. Ouais. Là, elle a perdu 30 livres.
C'est ça.
En deux minutes.
Ben, il faut aussi comprendre une chose, c'est que n'importe quelle diète, entre guillemets, que tu vas faire dans ta vie, au début, ça va faire un choc à ton corps, puis ça se peut justement à cause que là, tu élimines beaucoup d'aliments inflammatoires, bien que ton corps va, ça va faire du bien à ton foie, tu vas dégonfler, mais à un moment donné, ça risque de stagner. Moi, c'est exactement ça, ça l'avait fait quand j'ai passé de manger de la viande, des petits poissons à plus rien manger, j'ai dégonflé. Mais après ça, ça l'a stagné, puis j'ai commencé à prendre du poids. Fait faut juste aussi que tu sois alerte des signaux que ton corps t'envoie. Faut pas que tu fermes les yeux. Moi, j'ai fermé les yeux pendant 50 ans. Je me disais, non, c'est pas mon alimentation, mais j'étais en train de détériorer, là, ça n'a pas de sens. Puis mes proches me le disaient, tu sais, depuis que tu as changé ton alimentation, t'es plus la même personne, là, tu as tellement changé, puis pas mentalement, mais physiquement. Fait que les gens le remarquaient autour, mais faut pas que tu fermes tes yeux envers tes propres signaux aussi.
Non.
Puis c'est ça, comme diète, que ce soit carnivore, que ce soit keto, que ce soit vegan, que ce soit végétarien, whatever, il n'y a rien de concret, puis c'est ça que tout le monde devrait faire. Il faut que tu analyses finalement qui est-ce qui fonctionne mieux pour toi puis que tu stick to that.
Totalement. Ça, je suis 100% d'accord avec toi.
On a besoin des nutriments un peu de partout aussi. On ne peut pas comme se créer des carences en éliminant certains aliments. Il faut que tu manges un peu de tout. En plus, on doit se le dire, là, comme oui, on est des naturopathes, oui, on prend le manger sain, mais en même temps, il faut rester dans l'équilibre parce que partout où est-ce que tu vas aller dans la vie, il y a des tentations partout. Tu vois, il y a des fast-food, il y a des beignes, il y a des je sais pas, il y a des restaurants quelconques. Fait que tu peux pas manger full santé 100% du temps non, les jours le restant de ta vie. Un moment, il faut un équilibre.
Si t'as pas d'équilibre non plus, exemple, tu fais juste la diète cétogène. Là, tu te retrouves à un moment donné là, où est-ce que tu peux pas manger cétogène. Il y a de quoi qui se passe. Même, tu prends genre 5 livres. Si tu as mangé un beigne. C'est comme, c'est pas nice, ça. Fait que, si tu n'as pas de flexibilité métabolique, c'est ça que j'explique beaucoup au monde avec la diète vegan. C'est que si, exemple, tu manges low carbs, tu perds du poids, mais dès que tu manges un grain de riz, tu prends 5 livres, merde, c'est pas bon, là. Tu n'as aucune flexibilité métabolique, ton corps n'est pas capable d'utiliser toutes tes sources énergétiques. Fait qu'arrête de dire que ça, c'est le game changer, tu sais, pour une certaine problématique. Et quand tu es épileptique, peut-être que c'est bon pour toi.
Ouais.
T'as une commotion cérébrale, peut-être que c'est bon pour toi. Mais quand même, de perdre du tissu adipeux ou juste d'avoir un bon mode de vie, ça, c'est dans la zone blanc ou noir. T'as pas de zone grise avec ça.
C'est pour ça que ça revient au point de vraiment mieux se connaître, d'apprendre qu'est-ce qui est bon pour nous, genre c'est quoi nos valeurs, ainsi de suite, concernant l'alimentation, puis juste dans notre vie, puis d'avoir une ouverture d'esprit autant, par exemple, je sais pas moi, le côté vegan, le côté carnivore, pour voir qu'est-ce qui fit avec nous, puis...
Le but, c'est que ça fit. Tu sais, si la meilleure diète, là, comme je dis à tout le monde, c'est elle que tu as de suivre.
Mais c'est ça, puis tu sais, c'est peut-être que constamment, tu suis une diète en tant que telle, mais finalement, tu te rends compte dans une couple de mois que ça ne fait pas avec toi, tu n'es pas bien là-dedans, ben, change. Puis, pour que tu comme découvre qu'est-ce qui va bien avec toi, puis après ça, tu.
Exactement. Fait que, tu sais, si toi, tu es vraiment bien dans la diète végétarienne, puis que c'est juste ça parce que tu sacres les animaux, puis la planète, des choses comme ça, ou peu importe ton objectif, reste avec ça, tu sais. Parce que ça va être en ligne avec toi. Mais après ça, si exemple, toi, ton objectif, c'est d'être. Faut juste que tes objectifs soient clairs. C'est juste ça que je veux dire. T'sais, si exemple, ton objectif, c'est d'améliorer ta composition corporelle puis d'être en super bonne santé, on peut maintenant comme parler un petit peu contre certaines types de diètes. Mais maintenant, ça prend le côté moral puis le côté objectif réel. Fait qu'avoir un mix des deux, je pense que c'est ça qui est super.
Parce qu'il est bon et de mauvais côté dans chaque diète aussi.
Ouais, c'est pour ça que ça te prend un équilibre. C'est ça que je mentionne. Fait que si, exemple, t'es juste vegan, t'es juste carnivore, pense pas que c'est bon.
Mm-hmm.
C'est un mix, ça peut être vraiment intéressant.
100%.
Fait que, next one.
Puis, on va parler de l'activité physique, en fait, que ce soit pour la recomposition corporelle ou l'activité physique tout simplement à tout prix. Hein, ben, mm-hmm. Qu'est-ce que c'est bon, c'est du sport, en général?
Hyper important.
OK. Ça, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais l'impact, moi, en tout cas, la question que je voulais la diriger, c'est vers où? C'est l'impact que l'activité physique va avoir, en fait, dans une recomposition ou l'amélioration de notre santé en général.
Ouais, c'est pas juste calories ou calories. Ouais. C'est optimisation de toutes tes sphères hormonales. Si tu ne bouges pas, tes sphères hormonales vont pas être optimales.
Il faut se rappeler aussi, comme si on regarde en arrière nos ancêtres, tout le monde bougeait d'auto.
On n'est pas fait pour être sédentaire.
Ouais, on n'est pas fait pour être sédentaire. Il faut pas rester assis sur le bureau toute la. Pas sur le bureau.
Tam, puis elle a fait ses consultations, elle est assise en Indien sur le bureau, là, avec son laptop, ses genoux.
Il est super bien d'avoir juste une bonne alimentation pour optimiser notre santé et notre composition corporelle.
Non, exact. C'est ça. Mais tantôt, on parlait quand même de Kevin Calvary Out.
Oui, mais c'est moi, je sais que ça n'a pas rapport. Parce que moi, là, je peux faire perdre du poids à quelqu'un qui ne s'entraîne zéro.
Ça, je suis d'accord.
Est-ce que.
Ça va être facile.
Est-ce que. Non, mais est-ce que c'est bon pour. La santé. La réponse,
non.
C'est vraiment pas bon. Tu sais, quelqu'un, exemple, qui bouge, là, exemple, qui a une job, puis physique, puis là, d'un coup, il prend sa retraite, boum, il arrête de bouger. Qu'est-ce qui se passe? Ben. Il commence à vieillir plus rapidement, sa mémoire va moins bien, puis check les douleurs qui sortent. Il y a plein de douleurs qui ressortent en même temps.
Tellement, le métabolisme commence à ralentir, fait que c'est pas bon pour l'humain de rester assis, de jeter, c'est donc.
Non, c'est la. C'est la pire chose, mais c'est pas pour les calories que tu brûles. Fait que, tu sais, là, votre petite watch, là, je suis rendu à 352 calories, il m'en manque 5. C'est pas bon, là. C'est pas ça qu'il faut checker. C'est du micro-managing. Tu essaies de tout contrôler ce que tu veux faire, mais c'est important que tu ailles ça pour toute ta santé vitale. Tu sais, pour ta cognition, tes articulations, tes hormones, ta santé cardiovasculaire, c'est hyper important, tu sais.
Tellement.
Ouais.
Puis c'est une des raisons, si quelqu'un ne bouge pas, c'est une des raisons aussi pourquoi quelqu'un atteint un plateau. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est comme tu disais tantôt, ça va fonctionner, tu vas perdre du poids, mais après ça, ça risque de stagner. Puis si tu n'incorpores pas de l'activité physique, ben tu risques de continuer à stagner pour le restant de ta vie. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, tu choques ton corps puis
ouais.
Commence à bouger, ça va full aider.
Oui, exact. La sédentarité, comme je dis, c'est la pire chose. Fait que si, exemple, j'écoutais le podcast, vous êtes genre à ne pas bouger, à faire 2000 pas par jour, vous pouvez perdre du poids, vous pouvez optimiser votre composition, mais comme je vous dis, pour votre santé, pour votre vitalité, pour votre longévité, c'est pas bon.
Okay. Conseiller combien de temps, exemple, par journée? Parce que, mettons, quelqu'un qui travaille 100% de son temps assis à l'ordinateur, qu'est-ce qu'il conseille?
10 000 pas par jour. Non négociable.
Non.
Non, pour vrai, moi c'est non négociable pour moi.
Ouais. Voilà. Pas des 10 000 pas.
Moi, je vais dire pourquoi. Moi, je vais dire pourquoi. Que je dis que 10 000 pas par jour, parce que c'est comme tu dis, il faut que tu bouges pendant X nombre de temps. Là. Okay? Tu peux juste être assis comme debout, t'es demandé mais l'eau, tu marches un petit peu. Tu peux bouger pendant 2 heures de temps et faire 2 000 pas par jour. Tu comprends-tu?
Ouais.
Moi, tu peux bouger pendant 2 heures de temps et faire 10 000 pas par jour.
Puis moi, je te dis, mettons la Gisèle qui n'a pas d'Apple Watch pour son de pas, comment elle fait pour quelqu'un qui a 10 000 pas?
Tous les téléphones maintenant, là. Ouais. OK, ça, il n'y a plus d'excuse. Tout le monde a un téléphone intelligent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'excuse de dire moi, j'ai une job 100% sédentaire, je travaille vraiment beaucoup. C'est pas une excuse qui est valable pour moi. La raison, c'est que je suis en moyenne 12 heures de temps en clinique à tous les jours de la semaine. Et il n'y a pas une seule journée que je n'entends pas mon 10 000 pas par jour et je ne marche pas dans la clinique non-stop. Je ne fais même pas de tapis. Tu sais, je marche à la fin... J'en fais des fois, mais à la fin de ma journée sur ma Apple Watch, souvent, là, je suis à 3-4 000 pas par jour. That's it. C'est tout. Tout le reste, j'ai fait après la job. Si je suis vraiment trop loin, je vais faire du bike. Je vais sortir en vélo. Puis le monde, ils vont voir sur Instagram. Je fais souvent du vélo. Je vais souvent aller marcher dehors. Fait que c'est pas une excuse. Tu sais, si exemple, t'as de la job, t'as fini ta journée de travail, tu dis, ouais, mais là, faut que je continue. Prends ton téléphone, fais tes appels en marchant, réponds à tes courriels en marchant. Il n'y a pas cette excuse-là. Puis si exemple, Si, exemple, tu travailles vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, genre 16 heures de temps par jour, bien, ça veut dire que tu fais quand même un bon paycheck, j'imagine. Fait que tu peux t'acheter un petit tapis à 200$ sur Amazon puis marcher en travail. Fait qu'il n'y a pas cette excuse-là. Puis ça, souvent, comme être humain, ça, c'est un des saboteurs qu'on a. On a tendance à tout le temps trouver les excuses. Tout le temps. Mais ça, moi, c'est un non négociable pour les personnes.
Même que ce que je dis à mes clients, c'est regarde, commence par minimum 8 minutes par jour. Puis quand je dis minimum, c'est que si tu regardes, mettons que tu as une montre, tu as laissé ton téléphone sur toi toute la journée, puis tu vois que tu es rendu à 6 000, oh, c'est correct, je suis proche de mon 8 000. Non, va prendre ton 8 000.
Exact.
Puis pour calculer approximativement, mettons que tu n'as pas de montre ou de téléphone.
Tu comptes chaque pas que tu fais.
Non.
1, 2.
Non, mais ce que moi, j'ai calculé, ça fait des années, j'ai ma montre Fitbit, puis. Ce que je vois, c'est que quand on marche à un pace normal, chaque 10 minutes, on fait à peu près 1000 pas. À peu près.
Ben,
fait que, ouais, ça fait des années que je calcule, puis je suis comme, ah, c'est 10 minutes, je fais 1000 pas. Nice.
C'est bon, fait ça.
Fait qu'à un pace normal, tu sais que tu as fait 1000 pas si tu as marché 10 minutes.
Ouais, fait que, tu sais, ça va vite, là.
Ouais, c'est juste que moi, je trouve ça vraiment très. Tu sais, en fait, au lieu de parler de pas, moi, j'ai gagné une activité tout simplement qui dure 25 à 30 minutes par jour, de bouger pendant 25 à 30 minutes par jour. Et moi, ce que je demande, c'est avoir un rythme cardiaque qui vient en conséquence d'eux. Dans le sens que, tu sais, il ne faut pas que tu sois essoufflé, mais il ne faut pas non plus que. Ben, comment expliquer, tu sais, une marche, on sait tout ce que c'est, une marche, mettons, avec ta grand-mère, puis une marche un petit peu plus active avec son chien, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
moi, c'est juste que faut parler. Moi, je parle à la population en général, 10 000 pas. Parfois, ça peut être compliqué. Tu sais, c'est juste que comment moi, j'apporte ça, c'est que si y a en clinique, il y a des gens qui viennent qui sont pas forcément d'Apple Watch, ils sont pas forcément de téléphone extra super qualitatif et autres. Puis il y a des personnes qui sont quand même assez âgées.
Ouais, ça c'est quelque chose. Mais tu sais, faut tout le temps que tu ailles graduellement.
Exact.
Graduellement. Moi là, l'âge. Qu'est-ce que l'âge? Ma mère, elle a 70 ans. Ma mère court 2 demi-marathons par semaine. Ouais,
par semaine.
Ouais. Wow. Fait que maman, si tu m'écoutes, je suis très fier de toi. Mais l'affaire, c'est ça. C'est que elle n'a pas arrêté de bouger.
Mm-hmm.
Et ça, là, c'est le nerf de la guerre. T'sais, tu regardes les parents, là, sont en méga forme parce qu'ils s'alimentent bien puis ils bougent. Ça, là, moi, c'est mes modèles là, pour ça. Là, c'est incroyable. T'sais, ma soeur, elle bouge énormément, beaucoup aussi. Fait que, tu sais, c'est insane. Là. Mais c'est ça, il y a tout le temps l'excuse de « Ah oui, mais moi si, ah oui, mais moi ça, mais moi si, tu sais. »
Mais il faut se rappeler, l'alimentation et l'entraînement, c'est la base de la vie pour être en santé.
Juste par rapport aux 10 000 pas, parce que là, tu sais que souvent, c'est comme « Ouais, là, c'est gros, vise la progression et non la perfection. » Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, j'ai un client, là, que j'en ai dit ça. J'ai un client que ce que je lui ai donné comme objectif, c'est à toutes les semaines d'augmenter de 500 pas. Not good, c'est pas beaucoup, là. Mais pour arriver à 10 000 pas, puis et voilà, c'est fait. Il est arrivé. Puis pourtant, c'est super facile. Toutes les semaines, il a augmenté de 5 minutes, ça marche. That's it.
C'est excellent.
5 minutes de plus par jour, par semaine. Pas gros, là.
Oui. Mais si vous allez avoir un approximatif des gens qui travaillent en bureau, habituellement, ce qu'on voit, c'est que quand tu as. Mettons que tu travailles dans un bureau, fait que tu t'es déplacé, tu t'as pris l'auto, tu as peut-être été à la toilette plusieurs fois, tu as été réchauffer ton lunch, whatever, à la fin de ta journée, si tu n'as pas pris de marche extra, tu as peut-être fait 3 ou 4 000 pas maximum dans ta journée. Fait que là, pour justement atteindre ton. On va dire 8 à 10 000, il faudrait que tu rajoutes à peu près, en considérant le 10 minutes qui va équivaloir à 1000 pas, mais il faudrait que tu rajoutes peut-être un 30-40 minutes de marche dans ta journée. Fait que tu vises-le comme tu veux dans ta journée, mais vise la progression, oui. Justement.
Fait que.
Est-ce que ça en plus d'effet si on fait, exemple, 10 000 pas en un bloc, ou c'est la même chose que si on fait 10 000 pas, mais comme tu es réparti dans la journée?
C'est une bonne question.
En fait, c'est qu'on.
C'est ton rythme cardiaque, hein? Qui augmente.
En fait, on a trois énergies, en fait, subséquentes dans le corps. Puis c'est sûr que quand tu vas faire, en fait, une activité qui va durer un petit peu plus de temps, une fois que ton ATP va être vidé, que ton glycogène va être vidé, ben après, c'est sûr qu'on va aller chercher les tissus un petit peu. Là, je parle plus, un peu plus. Mais en fait, l'avantage de faire une activité plus ou moins longue, exemple. Comme Hugues, il disait tantôt, il faisait du bike, ben c'est sûr qu'au début de son bike, il va aller brûler son ATP, son glycogène par la suite, puis vers la fin de son bike, dépendant de combien de temps ça dure, il va aller chercher justement plus de tissu adipeux. Ben en fait, l'utilisation d'énergie par son type de gras, c'est sûr que moi, genre, tu sais, peu importe, là, ce qui compte, c'est que tu bouges. Ça, c'est la priorité.
Après, c'est ça pour dire que
c'est ça.
C'est la base. Excusez-moi. On parle d'ATP, le pot génèse. L'important, là, on bouge.
C'est le plus important.
C'est le plus important.
C'est juste bouger.
Non, mais la question, c'était bon pour vrai. Tu sais, comme, est-ce que c'est le même résultat si tu fais tout en un seul bloc ou toute la journée? Pour vrai?
Je pense que ça va dépendre de ton objectif, parce que si tu...
Ouais,
ah, ben c'est la perte de gras, ben non, faudrait que tu bouges comme plus longtemps, pas 5 minutes, 10 minutes là, 20 minutes là.
C'est tellement tough à répondre, parce que tu sais, si tu bouges pas, là tu me dis, ben OK, moi, je peux pas bouger dans ma journée, mais j'ai tout le temps un bloc, ben c'est tellement mieux ça, là.
Oui.
Fait que c'est ça qu'il faut faire.
Ouais. Mais aussi, si tu marches, exemple, avec ton chien, que tu sais que ton chien va arrêter, il va pas marcher tout le long, puis que... Tu marches très mollo, ben si, mettons, ton objectif, c'est la perte de gras, il y a
pas de... Exemple, tu vois, je pense que la question, c'était, tu fais 10 000 pas en une heure ou tu fais 10 000 pas en 12 heures? C'est-tu la même impact? C'est ça ta question? Oui.
Ouais.
Perso, là, rendu là, si c'est juste un objectif obligé, moi, je m'en fous. Fais ce que tu peux faire. C'est ça l'objectif, d'après moi, là. Parce que j'ai pas vraiment la réponse exacte, puis je vois, tu sais, moi, je suis très honnête, là, de dire... Il va y avoir une différence notable si tu le fais à une heure. Puis même peut-être qu'en une heure, tu aurais peut-être plus de résultats. Parce que si ton rythme est vraiment plus rapide.
Ouais. Mais fais vas-y, mais feel.
Ouais. Feel it.
Feel it. Mm-hmm. Just do it.
Ouais.
Après, on avait aussi tout ce qui était édulcorant, donc sucralose, etc. Là, c'est les choses qu'on trouve dans notre alimentation maintenant. Parce qu'on vit dans une ère, je pense qu'on ne veut pas beaucoup de calories, on ne veut pas. Dans nos sauces, dans nos boissons, dans si donc on essaie de mettre le plus possible out le sucre. Et maintenant, on remplace ça pour donner un petit goût justement par des édulcorants, dont le sucralose. Qu'est-ce que vous en pensez?
En plus, j'ai écouté une vidéo par rapport à ça ce matin, justement, qu'un médecin expliquait que justement, lui, il disait, il a tout expliqué un scénario là, avec le exemple, les boissons gazeuses sans sucre, zéro calorie, mais que quelqu'un va le boire à tous les jours, t'es mieux, exemple. De consommer quelque chose avec du sucre dedans, finalement, du sucre blanc, une fois de temps en temps, que consommer quelque chose avec du sucralose à tous les jours, parce que c'est mauvais pour notre flore intestinale.
Ouais, exact.
C'est ça. Fait que oui, puis en plus, ben, si je me trompe pas, ton corps, il va quand même. Quand tu vas consommer du sucralose, ou exemple de l'aspartame ou quelque chose, ton pancréas va quand même sécréter de l'insuline.
Ouais, exact.
Donc, éventuellement, ça se peut que ça t'amène vers une résistance à l'insuline si tu n'as pas une bonne gestion de ton alimentation. Puis la résistance à l'insuline, ceux qui ne savent pas, c'est la première étape avant que ça se développe en diabète type 2.
Ouais, exact. C'est ça. Fait que je ne sais pas pour vrai. Tu sais, comme le sucralose, honnêtement, tu sais, dans le meilleur des mondes, tu n'en consommes pas. Parce que, tu sais, il y a du classement. Mais en même temps, il faut, comme tu sais, quand on a parlé de la zone grise,
ouais.
Ça te prend comme. C'est pas la fin du monde.
Tu as évité de manger ta crème glacée le soir, mettons. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui, exact. C'est ça.
Fait mais parce que ça dépend, c'est quoi ton objectif. Parce que si tu veux être en bonne santé, il faudrait que. C'est choisir les moments que tu veux consommer ces aliments-là, que tu sais que techniquement, c'est en guillemets pas bon pour la santé. Ouais. Mais en consommer à tous les jours, c'est sûr que si c'est en mini dose, c'est pas la fin du monde.
Non,
mais si c'est en grande quantité, exemple que tu as de l'aspartame ou du sucralose dans ta boisson énergisante, puis en plus, tu en as dans ta gomme que tu viens de manger, ouais, puis en plus, tu en as dans ta sauce. Sauce, ouais, farm, tu sais. Faut que tu checkes le total de tout ce que tu as consommé dans ta journée, combien de sucralose sinon tu viens de consommer.
Exact. C'est ça, un petit peu par-ci, par-là, c'est bien correct, mais si t'arrives, t'en consommes trop, là, tu sais, tout ce que tu consommes, c'est genre ultra transformé, tu sais, les aliments diète, là, tu sais, les aliments sans calories, mais ça, là, c'est pas bon. Puis ça, en fait, ça va juste rendre plus dur ta démarche. Parce que plus que tu consommes de sucralose, plus que t'as envie de manger du sucre. Fait que là, à un moment donné, tu reviens dans tes anciens patterns, là.
Ah, c'est ça. Mais après, tu sais, c'est juste comme moi que je l'utilise. Moi, honnêtement, le sucralose, je l'utilise pour moi-même puis pour mes clients, justement, pour, comme parfois, juste se réconforter aussi un petit peu ou juste aider, justement, à passer une transition. Je suis comme exemple, t'es mieux de boire, comme j'avais dit à un de mes clients, t'es mieux de boire, mettons, une canne, mettons, une petite canne de Coke Diet ou zéro plutôt que de te caler, mettons, on va descendre jusqu'à une glacée tous les soirs, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est
totalement d'accord.
C'est des choses, je pense, qu'on parle depuis tantôt, c'est d'être balancé. Je pense qu'il n'y a rien qui est le démon, il n'y a rien qui est si pire que ça, mais il faut juste faire attention aux quantités rendues là.
Ouais.
Ouais, totalement.
Et bon, dans certains naturopathes et autres de ce monde diront, ouais, mais le sucralose, il n'y a pas forcément d'études par rapport à ça, c'est vraiment, ou alors même très extrémiste, qu'il n'en faut pas du tout.
Mais à un moment donné, il faut un équilibre.
C'est ça, exact, c'est ça.
Il y a des tentations partout quand on sort du bureau. Fait que faut trouver un équilibre qui fonctionne pour nous sous
l'homme. Ouais. L'affaire, c'est ça, l'affaire. C'est que si t'as pas d'équilibre, tu sais, mais encore là, c'est du blanc et noir. Tu sais, c'est non, du sucralose, aucun sucralose ou comme. non, le sucre à l'os, ça fait absolument rien. T'sais, c'est pas bon. Là. Fait que, tu sais, zone grise dans tout ça, c'est bien ben correct. Faut juste faire attention à la quantité.
Que... Exact.
Le corps humain, oui, il est quand même assez fort. Fait qu'il est capable de...
Ouais,
assez complexe et assez, assez puissant. Il est capable de bien éliminer les affaires. Fait que, tu sais, si tu trouves un équilibre dans, dans tout, ça serait vraiment optimal.
Good. Ouais, exactement. Fait que morale de tout ce podcast, je pense qu'on a dit zone grise au moins 70 fois.
Ouais.
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 Ça te prend un équilibre. Puis je pense que si tu es capable de trouver un équilibre, tu vas avoir une vie incroyable. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast. N'oubliez pas, si vous êtes rendu ici dans le podcast, c'est sûrement parce que vous avez aimé l'épisode. Donc, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur la plateforme que vous êtes. Ça nous aide à toucher encore plus de gens. Et on se dit à un nouvel épisode du podcast Optimiste.